Bonjour à tous. La semaine dernière, je vous ai parlé des travaux de la rue de Metz et je vous disais que c'était une durée qui me paraissait bien incroyable, mais qui ne faisait que s'ajouter à celle d'autres travaux. Ce n'était pas une spécialité toulousaine, puisque on voit cela dans à peu près toutes les grandes villes françaises qui ont une sorte de compulsion névrotique à créer des travaux dans ces centres anciens. On ne voit pas très bien la finalité, Paris étant le summum de tout cela. Mais en fait, on ne parle pas de Paris, mais on parle de Toulouse. Et donc, c'était le cas de la rue de Metz où je soulignais que le temps aujourd'hui de la réfection ou du changement d'utilisation, c'est-à-dire on passe d'un axe routier à un axe piétonnier, ce qui est un peu l'inverse de ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'en fait les grands travaux avant étaient de passer du piéton à la voiture et ça demandait une certaine énergie, une volonté de grande amélioration et là c'est l'inverse. Alors pourquoi pas, mais en fait ce qui est quand même étonnant, c'est que ça prend encore plus de temps avec les moyens modernes que nous possédons aujourd'hui, ce qui est quand même assez incroyable. Donc je vous disais que le percement de la rue de Metz avait pris 3 ans, mais ce percement était considérable puisqu'on avait on avait percé dans un quartier ancien une voie qui n'existait absolument pas, donc il avait fallu démolir un grand nombre de maisons, de bâtiments, et on avait d'ailleurs pris un morceau du cloître des Jacobins, qui est aujourd'hui le musée des Augustins, le cloître des Augustins qui est aujourd'hui le musée, et j'avais oublié de vous dire que on avait reconstruit ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ce que l'on voit aujourd'hui, le bâtiment, pas évidemment le cloître, mais le bâtiment que l'on voit à l'angle de la rue Alsace et de la rue de Metz, c'est un bâtiment du 19e qui a été fait pendant cette période de percement et de reconstruction. Donc on a reconstruit les façades, mais on a reconstruit les maisons, on a construit des immeubles entiers et on les a construits en briques et en pierre de qualité. Et d'ailleurs, ces bâtiments n'ont pas bougé depuis. Alors, c'est assez surprenant de voir les travaux actuels et surtout les travaux, je vois par exemple, je passais récemment dans ce quartier que je connais bien, comme beaucoup de Toulousains, qui était à l'avenue de Lyon, le quartier Bonnefoy, et on a actuellement une image assez incroyable. Effectivement, on pourrait dire que ça ne change pas trop de ce que l'on voit à la télévision depuis des mois, entre les destructions de Kiev en Ukraine, aujourd'hui de la ville de Gaza. Bon, on est là à peu près avec des paysages urbains de cette tristesse. Et on comprend pas très bien, parce que pourquoi démolir entièrement et en disant c'est une opération qui va durer 10, 12 ans, on parle même de 20 ans. Ce qui est quand même surprenant, encore une fois, je rappelle, la fin du 19e siècle, où à cette époque-là, il n'y avait aucune des machines que nous avons aujourd'hui pour les travaux. De plus, la qualité des matériaux, elle est différente. En tout cas, la mise en œuvre est beaucoup plus rapide aujourd'hui. On le sait, c'est beaucoup plus facile de couler du béton que de monter les briques ou faire les appareillages de pierre et de briques. Bien, alors, je ne veux pas jouer les passéistes, mais je voulais parler d'une interview du maire de Toulouse récemment qui parlait d'architecture. L'architecture étant notre sujet. Alors, il revient sur cette fameuse tour occitane qui est l'arlésienne, qui ressort de temps en temps et au gré, paraît-il, de l'actualité que je ne suis pas, de procédures, de procès d'association, serait aujourd'hui prête à être construite. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'argumentation du maire. Alors, je vais vous donner, moi je n'ai pas de position de principe. Les immeubles de grande hauteur sont une création relativement récente. Les premiers, rappelons-le, ont été créés à Chicago. C'est les premiers gratte-ciel, qui est la traduction du mot skyscrapers, qui voulait dire exactement cela, par un architecte américain qui s'appelait d'abord, qui avait un nom moitié français, le baron Genet, qui était d'ailleurs un ancien, et qui était un américain, mais ancien élève de l'école des Beaux-Arts, ce qui n'était pas à l'époque une étrangeté, puisque l'école des Beaux-Arts était une des seules écoles d'architecture du monde. Donc, par la suite, c'est évidemment New York, sur la presqu'île de Manhattan, qui va recevoir le plus grand nombre de ces gratte-ciels, et ça continue d'ailleurs, mais on peut dire que nous sommes dans des situations géographiques un peu particulières. Alors, Chicago, effectivement, c'est au bord du lac Michigan, c'est une ville, on peut dire, le lac c'est une mer intérieure, c'est une ville portuaire, donc il y a toujours cette frontière qui est la mer, et aussi la vue que les gratte-ciel ont sur un espace infini, et qui est tout à fait différent des gratte-ciel qui sont à l'intérieur de terre et qui vont avoir de ce fait une vision d'abord non pas aussi étendue, et puis surtout qui boucheront la vue à un plus grand nombre de personnes avec l'ombre du bâtiment qui sera sur le bâti existant. Donc les gratte-ciels sont justifiés aussi sur des territoires comme Hong Kong, Monaco à 35 hectares. Ce sont des géographies dues à la politique qui font qu'il y a très peu d'espace, donc on est obligé de monter en hauteur. Donc ça peut se justifier effectivement pour un grand nombre de motifs. Et puis aussi, quand il y a une nécessité de concentrer à un même endroit, la verticalité permet cela. Alors, la question de la tour est une question d'abord de son utilité. Est-ce qu'il est utile à Toulouse de créer une tour qui va être une grande tour de bureau? C'est un peu surprenant parce que, me semble-t-il, quand on prend la rocade, il y a de beaux immeubles de bureaux qui n'ont quasiment jamais servi, qui sont de l'autre côté de l'ancienne usine qui a explosé d'AZF et qui me semble vide également à la Beige. J'ai bien l'impression aussi qu'il y a des immeubles de bureaux qui ne sont pas allumés en fin de journée, donc qui sont apparemment inhabités. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de bureaux? Et ce qui peut justifier justement ces immeubles de grande hauteur? Alors, quant au logement, parce qu'on fait aujourd'hui, paraît-il, un immeuble ville. Et ce qui est un peu curieux dans le cas où justement il y a une ville qui existe, une ville qui n'a pas du tout les contraintes de nombreuses villes, des contraintes géographiques par des montagnes ou par l'océan ou par la mer. On ne voit pas très bien justement l'utilité de ces logements et de ces bureaux dans un seul territoire. Alors, il faut rappeler quand même que les immeubles de grande hauteur, Dans le cas du bourreau, effectivement, si c'est une société qui, pour ses besoins propres, a besoin d'avoir une concentration à un lieu, ça peut se justifier. Puis la société privée, elle assure elle-même la maintenance de la tour. Alors évidemment, quand on parle aujourd'hui de tour écologique, évidemment tout ça est un peu du flan, puisque on sait que l'entretien d'une tour est nécessairement cher. Du fait simplement des ascenseurs, mais aussi de normes de sécurité qui sont notamment les normes incendie, et puis aussi sa construction nécessite un entretien permanent pour les fluides, l'extraction, etc. Bon, passons sur cela, mais je crois que ça tombe sur le bon sens. Ça veut dire que le mètre carré en occupation est forcément plus coûteux en coût de construction, mais aussi, et ce qui est aussi important, c'est en exploitation, ça veut dire en coût d'entretien, en coût de maintenance. Alors, on peut trouver effectivement d'autres questions. Et le maire de Toulouse a trouvé, pour parler de son désir, alors, il précise bien que ce n'est pas un projet municipal et que ça ne coûtera rien aux contribuables, mais il donne son avis en tant qu'élu, premier élu, sur cela, et il donne les raisons. Alors, la raison est assez surprenante parce que il parle de Toulouse. D'abord, il dit que Toulouse est une ville basse, et que ça a été de toujours, et que ça avait été remarqué déjà par Chateaubriand. Alors, il me semble qu'il y a une petite erreur sur la personnalité en question, parce que ce dont je me souviens, c'était que la visite de Napoléon en 1808... à Toulouse, c'était la seule visite qu'il avait faite, et où il avait été, je pense, enchanté de sa visite, puisqu'il avait prodigué des largesses et suggéré aussi des grandes améliorations. On lui doit donc la finition des quais, on lui doit la place Wilson et son aménagement. En fait, il y a eu l'école vétérinaire et des grands aménagements de la ville qui ont été financés par l'Empire, qui était une période là, actuellement, à ce moment-là, tout à fait de prospérité. Donc, Napoléon avait dit, non pas de la ville, mais il avait parlé de la place du Capitole, il avait dit « la ville est basse ». Alors, c'est ce que reprend M. Boudin, le maire de Toulouse, en disant que Toulouse est une ville basse. Donc, l'argument, c'est-à-dire qu'il faut faire un immeuble haut pour compenser ce côté négatif de la ville qui serait de la ville basse. Alors, je voudrais d'abord faire une remarque d'architecte, qui est que la ville n'est pas plus basse que les autres. Simplement, la différence qu'il y a entre la plupart des villes françaises, en tout cas les villes de la partie nord, pour une ville du sud comme la nôtre, c'est-à-dire que Bordeaux, Paris bien sûr, c'est que nous avons des toits en tuiles, et nous avons donc des toits romains, et que ces toits, sur les immeubles d'une certaine hauteur, ne se voient pas. Il y a un acrotère, vous savez, l'acrotère, c'est la partie haute qui cache quasiment le toit, et on a l'impression aussi d'avoir un toit en terrasse. Dans le cas des immeubles parisiens, par exemple, la place des Vosges, la place de la Concorde, à Paris, les immeubles qui sont à Bordeaux, sur les quais, ne sont pas plus hauts que les immeubles de Toulouse. Simplement, ils ont un toit mansardé avec un comble qu'on appelle brisé, qui permet d'avoir une hauteur, et ça fait effectivement l'impression de plusieurs étages de plus, mais enfin, c'est tout à fait fictif. Uniquement une question de matériaux de toiture, de tuiles ou d'ardoise. Donc Toulouse n'était pas complexée, n'avait pas... Ce que dit le maire, c'était le manque d'audace architecturale qui était, ou plutôt, il dit qu'il manquait la culture de l'audace architecturale. Et il ajoute « très timoré depuis très longtemps ». Alors, d'abord, c'est quoi l'audace architecturale? Alors, on peut parler d'audace, par exemple, quand on fait un pont avec une très grande portée, effectivement, mais un pont, ce n'est pas tout à fait de l'architecture, c'est ce qu'on appelle un ouvrage d'art. Effectivement, ça peut être une prouesse technique, ce que l'architecture n'est pas. On n'habite pas les ponts, à part les ponts anciens. La Tour Eiffel, par exemple, on peut dire qu'elle est audacieuse, mais enfin, la Tour Eiffel, c'était une tour qui a servi très rapidement pour les télécommunications, comme on peut en voir à Toronto ou dans d'autres villes, qui ont été construites, ou à Seattle également, où on a des tours de béton qui sont des tours de communication, avec en haut un restaurant panoramique. Bon, alors, le but de l'architecture, c'est de créer une harmonie, de répondre à sa fonction, de créer une harmonie au niveau d'une ville, de répondre à ses fonctions, c'est-à-dire que, par exemple, le Capitole a l'air d'être le Capitole, c'est-à-dire la mairie, et puis également que les bâtiments de logement sont harmonieux, disposés, et que ces ensembles créent la beauté de ville. Est-ce que Florence, Venise, qui sont des villes de référence dans l'histoire des hommes, pour nous, Européens, sont-ils des villes qui manquent d'audace? Ce sont des villes où on voit pas très bien ce qu'il y a d'audacieux. Il y a surtout des beaux bâtiments, et des bâtiments qui sont de belle qualité, mais on n'a jamais demandé à de l'audace. Alors, de plus, est-ce qu'il est bien audacieux aujourd'hui? Comme je vous disais, les premiers gratte-ciels ont été construits au 19e siècle. Est-ce qu'il est aujourd'hui particulièrement spectaculaire, judicieux de créer en fait ce qui a pu surprendre au 19e siècle, mais qui aujourd'hui ne surprend personne? Donc on va marquer une pause musicale, on va reprendre sur ce sujet des gratte-ciels.
Sur le toit de ma ville, c'est ici que je vois le temps défiler. Je me retrouve là pour faire le vide, et je regarde toutes les étoiles s'aligner. Les yeux vers le ciel, j'imagine un réel sourire sur mon visage. Un bout de mon cœur est en Afrique. Je redessine le paysage. Tant de secrets que j'ai cachés tout là-haut. Tant de larmes que j'ai pu verser pour les autres. Tellement de blessures qu'on ne voit pas sur ma peau. Du mal à parler de ma vie, je trouve pas les mots. Je cache mes peurs dans un château de sable. On finira peut-être par l'emporter. S'écroule autour de moi, rien n'est stable. Le temps finira peut-être par s'arrêter. J'ai beau laisser quelques souvenirs sur la route, j'en oublierai quelques-uns sans aucun doute. Mais le monde en vrai, c'est pas tellement magique. J'en ai vu des contes de fées devenir tragiques. Autour de moi, je vois les gens se déchirer, à la recherche de l'amour pour mieux se décimer. En moins certainement qu'au mois de février. Des pavés tout le reste de l'année, comment ne pas vriller. Tant de secrets que j'ai cachés tout là-haut. Tant de larmes que j'ai pu verser pour les autres. Tellement de blessures qu'on ne voit pas sur ma peau. Du mal à parler de ma vie, je trouve pas les mots. Je cache mes peurs dans un château de sable. Finira peut-être par l'emporter. Mais tous s'écroule autour de moi, rien n'est stable. Le temps finira peut-être par s'arrêter. Je cache mes peurs dans un château de sable. Le vent finira peut-être par l'emporter. Tout s'écroule autour de moi, rien n'est stable. Le temps finira peut-être par s'arrêter.
Reprenons donc sur les tours. Les tours sont-elles un sujet de modernité? Mais comme je le disais tout à l'heure, pas vraiment. Le 19e siècle, c'est effectivement à ce moment-là, oui, on surprend le monde en créant les premières tours. Tout le long du 20e siècle, on a vu effectivement des tours fleurir à peu près dans toutes les capitales du monde, dans toutes les grandes villes du monde, d'une manière assez généralisée, et notamment dans ces nouvelles villes qui ont été créées sur la richesse des sous-sols pétrolifères dans le Moyen-Orient, et où une ville comme Dubaï a 300 tours. Alors, 300 tours d'ailleurs qui ont été pour la majorité construites par des agences d'architecture et d'ingénierie américaines, donc ce n'est pas des productions locales, et dans le cas présent, on va prendre un architecte américain parce que on voudrait faire apparemment comme les Émirats. Ça me semble pas quand même le comble de l'originalité et de la modernité que de prendre l'exemple, on peut dire, de nouveaux riches. Alors rappelons d'ailleurs que dans cette course au gratte-ciel, il y a une course à la hauteur. Et là, je ne pense pas que Toulouse veut s'aligner avec Dubaï. Alors je vous disais, au niveau du nombre, il y en a 300, mais au niveau de la hauteur, il y a le bâtiment champion du monde qui est Burj Khalifa qui fait 800 mètres de hauteur. Donc on a une tour de 150 mètres proposée à Toulouse, on est quand même loin du compte. Ceci dit, 150 mètres pour une ville comme Toulouse, c'est, alors pour donner un ordre de grandeur, c'est la moitié de la tour Eiffel. Donc on peut voir l'échelle de la tour Eiffel, même si la tour Eiffel est transparente et n'est pas une tour bâtie, et c'est quand même un bâtiment qui est considérable dans son espace, et donc son intégration dans le site est quand même une chose qui n'est pas très simple. Alors là aussi, on a manque de documents et de choses très lisibles. On voit par exemple que tout cet aménagement de ce quartier Matabiau dont on nous parle, puisque je parlais tout à l'heure de des démolitions de ce quartier, et on voit donc des espaces démolis, et on ne voit pas très bien ce qui est proposé à la place. Alors ça, c'est un phénomène qui n'est pas propre à la ville de Toulouse, qui est un phénomène assez général aujourd'hui. On a des beaux discours, alors les discours, ils sont extraordinaires. On a effectivement, on a de la mixité sociale, on a de la préfiguration volontariste, on a de l'innovation sociale, on a de la culture. Enfin, il y a effectivement des agences de communication qui nous donnent tout le vocabulaire à la mode, de l'inclusion, de la mixité, etc. Et on a des très belles images, à peu près toutes les mêmes partout. On a de l'animation, on voit c'est toujours très festif. Mais simplement, ça ne colle jamais vraiment à la réalité. C'est jamais la réalité qui est construite. Alors ça, évidemment, c'est un phénomène général. On a des choses, par exemple, aussi glauques que ce bâtiment horrible qui était le fameux Canopé à Paris. Et qui est un bâtiment sinistre, mais on avait ça qui était magnifique. On avait des représentations d'images trompeuses incroyables. Donc on continue d'avoir ça et on a du mal à comprendre la position, quel est le le projet général. Et il faut savoir que dans l'histoire, les plans étaient débattus, montrés, il y avait des grandes maquettes, il y avait des plans, des coupes, et les gens pouvaient lire ces projets. Aujourd'hui, on a, vous regarderez sur Internet, vous avez beaucoup de blabla, de discours, d'interviews, de la communication faite par des agences, des discours technocratiques qui reprennent tous ces mots dont je vous parle, et on n'a rien à se mettre sous la dent. Donc, j'étais en train de vous parler, et je voudrais conclure sur cela, de la question d'échelle. La Tour Eiffel, puisque je vous parlais de la Tour Eiffel, elle est devant le Champ de Mars, mais le Champ de Mars, c'est sa dimension, ça irait par exemple de Marengo au Pont Neuf, c'est-à-dire ça traverserait toute la ville. C'est-à-dire qu'à Toulouse, nous ne sommes pas tout à fait dans le même contexte urbanistique. Donc, ce qu'on aimerait bien comprendre, c'est quel est le contexte de l'aménagement et au-delà des mots. Alors, on s'est fait tous prendre par les fameuses Ramblas, parce que tout le monde rêvait de ce Barcelone toujours mythique, aussi proche avec le Paseo de Gracia, les Ramblas de Catalogne. Et puis, on a cette espèce d'aller de jardinerie triste ou nette, et effectivement, on ne peut être que déçu par ces projets qui nous promettaient monts et merveilles, et on se trouve devant des choses qui sont bien étriquées et bien tristes. Donc, on peut se méfier par rapport à ce qui est dit, ce qui est montré dans des images, attendu qu'on n'a pas de plans, de grandes maquettes, de choses sur lesquelles on peut voir, discuter, mais on parlera beaucoup de villes qui sont faites avec les habitants. On n'a jamais eu, je pense, autant de paroles, effectivement, inutiles, et aussi peu de véritables communications qui prennent en compte la démocratie.